Charmanet. Ce mot de peuple qui donne son nom à l'association. J'ai longtemps cherché par quel bout le prendre. Le présent ou l'histoire. Marx ou Wittig. Le petit ou le grand. La tragédie ou la comédie. Je crois que c'est Annie Lebrun qui parlait de ces formules devenues méconnaissables à force d'avoir été recuites. Méconnaissable, ce mot de peuple, il a la peau sur les os.
C'était une Italie populaire, agraire, pré-industrielle, etc. Et maintenant l'Italie est devenue un pays néo-capitaliste. Elle a eu la plus grande évolution de son histoire, peut-être. Et alors moi aussi j'ai changé avec l'histoire de mon pays. La Catone, l'Évangile, etc., ont eu comme destinataire le peuple, comme classe sociale. Mais maintenant, on ne peut plus parler en Italie d'un peuple dissocié de la bourgeoisie. Aussi, en Italie, il y a la culture de masse. Et alors, je ne peux pas faire des films dont le destinataire est le peuple. Il faut que je fasse des films dont la destinataire, c'est la masse, et je ne veux pas. La masse, c'est une abstraction oui. Qui comprend toutes les classes sociales. Un phénomène de la civilisation, de la consommation. Le peuple, c'est un phénomène pré-industriel.
J'ai intitulé ce travail « Servir le peuple ». Quand je t'ai parlé de ce que j'avais en tête, tu avais raison de me dire que ce n'était pas exactement l'histoire de Peuple et Culture. Mais que cette histoire, de toute façon, il aurait fallu quelques heures de plus pour la raconter. Ce n'est pas l'histoire de Peuple et Culture, mais c'est quand même celle d'un bon voisinage historique, qui échange des signaux d'Indien à travers la ville, trahir la bourgeoisie, les établis, les Medvedkin, le groupe Zygavertov. Cette histoire, tu la connais déjà. Et moi, en la découvrant ou en la redécouvrant, je me dis qu'on ne la connaît plus vraiment tout court. Alors, j'avais envie de l'évoquer à nouveau aujourd'hui. Dans notre époque biseautée en proie à la négation, il faut souvent revenir aux choses qui font battre le cœur, comme disait Sei Shonagon. Les mains de Christian Corrouge dans le film de Bruno Muel. L'échange de la charnière et les mots bouche serrée de Chris Marker à l'arrière-fond. Sa façon un peu hautaine peut-être, mais aussi très tendre de dire « les enfants » aux ouvriers de Sochaux. La douceur et l'inflexibilité de Pasolini. Aux innombrables questions que peuvent poser à nos temps étranges et rapides les formes et la réalité de la culture populaire, ce travail ne prétend pas apporter de réponse. Seulement quelques extraits de l'édifice de nos archives, filmiques, littéraires, radiophoniques, quelques idées conservées plus ou moins joyeusement du passé. Façon de parler, dire les choses, ou les écouter. Ouvrir, comme disait Claire Etcherelli, la malle du passé. Déjà, des histoires de fantômes ou de dinosaures. Les usines ont fermé, les filmeurs ont fermé, les yeux ont fermé, et il reste, comme chacun sait, que le trait le plus constant du souvenir, c'est qu'il est le plus souvent à côté de la plaque. Ce n'est peut-être pas une raison pourtant, pour laisser se mélanger les pinceaux entre sédimentation et corrosion, ou échanger leur colère, ces dinosaures, contre nos soupirs. Je dis moi aussi que le souvenir est parfois comme une partie d'échecs jouée sur un miroir.
Ah, tu te dis, nom de Dieu, que la nature est belle. En fait, c'est la pellicule qui dévoile la nature. La pellicule dévoile la réalité. Et quand elle ne dévoile pas la réalité, on dit que la pellicule est voilée. C'est tout. La pellicule. pellicule est sensible. Nom de pellicule, que la nature est belle. Alors celui qui tient le micro, s'il est sensible, celui qui tient la caméra, s'il est sensible, celui qui tient le micro, la caméra, il est sensible. Si tout le monde est sensible et que la pellicule est sensible, alors c'est la nuit, tu ne vois plus rien.
Les gens viennent d'en bas.
Chapitre 1. Le regard, les fleurs, l'usine et les bourgeois.
J'avais pour seul guide ce que j'appellerais la compassion, non pas au sens chrétien de la plainte et de la pitié, mais au sens de quelque chose d'au fond très égoïste, qui voudrait dire qu'on est avec. Ce mot dont je m'en parle là est cependant lourd d'ambiguïté, parce que choisir d'être avec ceux qui n'ont jamais eu le choix est par définition une telle impossibilité que je commence par me demander comment j'ai jamais pu penser une ânerie pareille. Et pourtant, à y regarder de plus près, c'est aujourd'hui encore exactement de ça qu'il est question. D'une entreprise de dédoublement, presque d'ubiquité, donc une entreprise absolument vouée à l'échec.
Les philosophes ont interprété différemment le monde.
Les philosophes ont interprété
différemment le monde. C'est de le changer.
Ce qui importe désormais, c'est de le changer.
Il est peut-être un peu puéril de penser qu'on peut lutter par quelques dizaines de milliers d'exemplaires ou par quelques milliers d'exemplaires contre une espèce d'inondation à plusieurs millions d'exemplaires de la presse quotidienne, hebdomadaire, de la radio, de la télévision. Mais d'abord, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont déjà sensibilisés et qui attendent qu'on leur apporte ce dont ils ont besoin dans leur travail, et que ce sont ces gens-là ensuite qui se servent des éléments qu'on leur a apportés, qui peuvent en sensibiliser d'autres. Enfin, c'est un travail extrêmement long et assez complexe. Certains qui se veulent des révolutionnaires authentiques et sans concession considèrent que publier des livres dans le cadre de la société capitaliste, c'est en fait faire le jeu de cette société capitaliste et lui donner la possibilité d'encore se prolonger. Mais je pense au problème de savoir qu'est-ce qui est récupéré dans cette histoire, qu'est-ce qui est utilisé. C'est une contradiction continuelle, ça je suis parfaitement d'accord. Le problème c'est d'être conscient de cette contradiction et d'essayer au jour le jour, tout en étant conscient de ne pas freiner toujours cette intégration et de ne pas aller dans le sens de la récupération. Je crois que si on en est conscient et si les gens avec qui on travaille en sont conscients, on doit pouvoir limiter les dégâts au maximum. L'essentiel, c'est d'être conscient que éternellement récupéré par la bourgeoisie, on la trahira éternellement, immédiatement, dans le même instant. Enfin, l'essentiel, c'est cette notion qui est une notion de mise en et qui est pour moi capitale, c'est que dans la lutte contre le capitalisme, l'essentiel c'est éternellement de trahir la bourgeoisie en employant, si c'est possible, ses propres armes, et là il s'agit de la culture bourgeoise, et de la mettre à la disposition de ceux qui luttent contre elle. Mais la notion de trahison de la bourgeoisie est la notion la plus importante. Moi je suis un bourgeois qui trahit la bourgeoisie et qui lutte toujours pour la trahir et pour la trahir mieux.
Il est temps de dire que la philosophie bourgeoise peut seulement produire des déclarations verbales, mais travaille réellement contre les grandes fins qu'elle prétend poursuivre. Cette opposition entre sa fin et son activité est l'origine de son équivoque, la source de la contradiction où elle est enveloppée. Les philosophes d'aujourd'hui rougissent encore d'avouer qu'ils ont trahi les hommes pour la bourgeoisie. Si nous trahissons la bourgeoisie pour les hommes, ne rougissons pas d'avouer que nous sommes des traîtres.
Me voici donc à l'usine, établie. L'embauche a été plus facile que je ne l'avais pensé. J'avais soigneusement composé mon histoire. Commis dans l'épicerie d'un oncle imaginaire à Orléans, puis manutentionnaire un an, service militaire dans le génie à Avignon, j'ai récité celui d'un camarade ouvrier de mon âge et prétendu avoir perdu mon livret. Pas de diplôme, non, même pas le BEPC. Je pouvais passer pour un Parisien d'origine provinciale perdu dans la capitale et qu'une ruine familiale contraint à l'usine. Je répondis brièvement aux questions, taciturne et inquiet.
Une odeur de fer brûlé, de sueur. Et le bruit aussi. Le bruit des presses, de la chaîne, des engrenages. Mes horaires, c'était, j'étais à la normale, comme on disait. C'est-à-dire que j'embauchais à 8h du matin et je terminais vers 6h du soir. Il y avait le café des sports où je retrouvais des copains. Autrement, je rentrais chez moi.
À partir de quand êtes-vous devenu un ouvrier ?
Ben jamais, je crois. Malheureusement. Enfin, malheureusement. Non, je crois que j'ai toujours gardé une distance par rapport à mon rôle. On s'en débarrasse pas facilement de lui. Même maintenant, un certain nombre d'années après, j'en rêve. Il m'arrive d'en rêver.
Et vous rêvez de quoi ?
Ben, la chaîne. Que la chaîne va trop vite, que j'arrive pas à suivre, etc.
Ce constat d'un peuple qui manque n'est pas un renoncement au cinéma politique, mais au contraire, la nouvelle base sur laquelle il se fonde, dès lors, dans le tiers-monde et les minorités. Il faut que l'art, particulièrement l'art cinématographique, participe à cette tâche. Non pas s'adresser à un peuple supposé, déjà là, mais contribuer à l'invention d'un peuple. Le peuple qui manque est un devenir. L'auteur de cinéma se trouve devant un peuple doublement colonisé du point de vue de la culture. Colonisé par des histoires venues d'ailleurs, mais aussi par ses propres mythes devenus des entités impersonnelles au service du colonisateur. L'auteur ne doit donc pas se faire l'ethnologue de son peuple, pas plus qu'inventer lui-même une fiction qui serait encore une histoire privée. Il reste à l'auteur la possibilité de se donner des intercesseurs, c'est-à-dire de prendre des personnages réels et non fictifs, mais en les mettant eux-mêmes en état de fictionner, de légender, de fabuler. L'auteur fait un pas vers ses personnages, mais les personnages font un pas vers l'auteur. Double devenir. La fabulation n'est pas un mythe impersonnel, mais ce n'est pas non plus une fiction personnelle. C'est une parole en acte, un acte de parole, par lequel le personnage ne cesse de franchir la frontière qui séparerait son affaire privée de la politique et produit lui-même des énoncés collectifs.
monde cherche moins son équilibre que son langage. Plus droit ? Le monde cherche moins son équilibre que son langage.
Encore une version comme ça ?
Le monde cherche moins son équilibre que son langage.
Le monde cherche moins son équilibre que son langage.
Roque d'Alto.
Pierre Vernet.
Si nous voulons tenir le langage de nos peuples, nous ne pouvons pas nous exprimer autrement.
Le monde cherche moins son équilibre que son langage.
Certains prétendent que Pierre Auvernet a été tué alors qu'il ne menaçait absolument pas le responsable administratif et que celui-ci a tiré sans avoir été préalablement attaqué. Parallèlement à l'enquête, cette affaire a suscité bien évidemment de nombreux commentaires. Pour la CGT, il s'agit de provocations, de tels actes et tels sont faits pour essayer de...
Chapitre 2. La main. Le russe, le train et les ouvriers.
Lutter contre le concept bourgeois de représentation. Arracher les instruments de la production aux griffes de l'idéologie dominante. C'est-à-dire, programme maximum, maximum. Pouvoir dire, cette image est rouge, rouge, rouge. Sans des ouvriers, masse paysanne, triple alliance avec les soldats. Programme minimum, minimum. Alphabétiser, savoir apprendre. Et savoir apprendre, c'est d'abord pour toi regarder en face le spectacle amer, absurde, immonde, le spectacle du maître d'école révisionniste collaborant au renforcement de la domination idéologique de la bourgeoisie.
Non, moi je crois que la période la plus intéressante de Godard, c'est les films qu'il a fait juste après mai 68, qui sont des films qui ne sont pas sortis dans le circuit commercial classique, parce qu'ils n'étaient pas destinés à ce circuit.
S'il vous plaît, les peuples du tiers-monde.
C'est les films qu'il a fait dans ce qu'on appelle le groupe Dziga-Vertov, qu'il a fondé avec quelques-uns de ses camarades. Ce sont des films en 16 mm qui ont une diffusion essentiellement parallèle, c'est-à-dire dans les universités, dans les lycées, dans les semaines de ceci ou de cela. Et c'est des films vraiment passionnants. Je pense à Vendeste, par exemple, qui au départ a été produit par le système et qui ensuite s'est révélé un produit inutilisable par le système. Je pense à Lutte en Italie, aux films de ce genre-là, qui sont importants parce que précisément là, on voit un cinéma, au travail, parce que ce sont des films de recherche, d'expérimentation, où on travaille sur le cinéma, sur les formes cinématographiques et sur la fonction du cinéma en même temps, et où on fait participer le spectateur à ce travail. Il a posé le problème. Pourquoi faire des films? Pour qui? À quoi ça sert? Et quel type de film doit-on faire aujourd'hui si on veut tenir un discours politique qui ne soit pas simplement la diffusion d'un message, mais qui soit aussi la mise en question des formes dans lesquelles le message doit être diffusé?
Fin. Début d'une lutte prolongée. Que faire? Tu as fait un film, tu l'as critiqué. Tu as fait des erreurs. Tu en as corrigé quelques-unes. Tu en sais peut-être davantage sur la production des sons et des images. Tu sais peut-être mieux maintenant à travers quelle lutte transformer cette production. Pour qui la transformer? Contre qui? Tu as peut-être appris une chose très simple.
On a raison de se révolter!
Le marxisme comporte de multiples principes qui se ramènent en dernière analyse à une seule phrase. On a raison de se révolter.
Seule phrase, on a raison de se révolter.
Un, il faut faire des films politiques.
Il faut faire politiquement des films.
1 et 2 sont antagonistes et appartiennent à deux conceptions du monde
opposées.
1 appartient à la conception idéaliste et métaphysique du monde. 2 appartient à la conception marxiste et dialectique du monde. Le marxisme lutte contre l'idéalisme et la dialectique contre la métaphysique. Faire un, c'est rester un être de la classe bourgeoise.
C'est rester un être de la classe bourgeoise.
Faire deux, c'est prendre une position de classe prolétarienne.
Prendre une position de la classe prolétarienne.
Faire un, c'est faire des descriptions de situation. Faire deux, c'est faire une analyse concrète d'une situation concrète. Faire un, c'est seulement ouvrir les yeux et les oreilles. Faire deux, c'est militer.
Un cheval montait à la tribune. Il était vêtu de la burqa à la cape caucasienne.
Vous contre-attaquiez avec d'autres atrocités et davantage de talent. Les trains blindés allaient laisser la place aux trains de guide propre. La propagande était la continuation de la guerre par d'autres moyens. Ces trains transportaient des livres, des affiches, des disques, des tracts, et tous avaient leur wagon cinéma, comme celui qu'on a reconstitué aux momies. Il y avait des projecteurs et des caméras, des films faits au sommet pour l'enseignement de la base, des documents tournés à la base pour être mis en film au sommet. Bientôt, tu allais renverser ce bel équilibre.
Mars 1967, la grande grève dans le vocabulaire radio. Grève originale par sa durée, un mois entier, par sa forme, l'occupation d'usines oubliée depuis 1936, mais surtout par cette idée continuellement reprise que le déséquilibre lié aux conditions de travail se traduit par un déséquilibre de toute la vie, que nulle augmentation de salaire ne suffirait à compenser, et qu'il ne s'agit pas de négocier à la façon américaine son intégration dans une société dite du bien-être, dans une civilisation dite des loisirs, mais de remettre en question cette société, cette civilisation elle-même. Et le résultat tangible de cette grève, ce n'est pas 3 ou 4% d'augmentation obtenue, c'est l'éducation d'une génération de jeunes ouvriers qui ont découvert dans l'identité de leurs conditions, l'identité de leur lutte.
Alors, c'est peut-être pas par hasard qu'en même temps qu'on commençait cette entreprise dont on savait d'avance ses limitations et ses éléments d'échec. On avait quand même poursuivi une activité parallèle, qui était celle d'un groupe de jeunes militants à qui on était entre les mains des caméras, des magnétophones. Avec cette hypothèse qui m'a paru toujours évidente, c'est que nous, on sera toujours au mieux des explorateurs bien intentionnés, plus ou moins sympathiques, mais de l'extérieur, et que, de même que pour sa libération, la représentation et l'expression du cinéma de la classe ouvrière sera son œuvre à elle-même. Et que c'est quand les ouvriers auront entre les mains les appareils audiovisuels, qui nous montrera à nous les films sur la classe ouvrière, sur ce que c'est qu'une grève, sur ce que c'est que l'intérieur d'une usine. Mais je crois qu'on serait même 10 000 fois plus malin et moins romantique, et qu'on serait quand même limité par cette espèce de réalité cinématographique qu'on expérimente tout le temps, qu'on aille chez les pingouins ou chez les ouvriers, que finalement on ne peut exprimer réellement que ce qu'on vit. Et quel film que vous souhaitez, finalement, mes enfants, c'est vous qui le ferez.
Il y a peut-être là un hiatus entre ce que dit Chris et ce que vous pouvez entendre, c'est que nous sommes, nous, convaincus que l'audiovisuel est à la portée instantanément de tout le monde. Tandis que peut-être pouvez-vous penser que l'audiovisuel, comme le langage écrit, comme la langue écrite, demande des années d'études. Nous sommes convaincus, nous, que ce n'est pas vrai. Et la preuve a été faite même ici par nos camarades du groupe Medvedkin, que ce langage audiovisuel est plus possible pour la classe ouvrière sans des années d'école. On n'a pas besoin de sortir de l'IDEC ni de Vaugirard pour faire de l'audiovisuel.
À bientôt, j'espère.
À bientôt, j'espère.
La charnière.
La charnière.
Classe de lutte.
Classe de lutte.
Rodia 48.
Rodia 48.
Nouvelle société Kelton.
Nouvelle société Kelton.
Nouvelle société biscuiterie Buller.
Nouvelle société biscuiterie
Buller. Nouvelle société OG découpage.
Nouvelle société OG découpage.
Lettre à mon ami Paul Seb.
Lettre à mon ami
Les
Paul Seb.
Les trois quarts de la vie.
Les trois quarts de la vie.
Week-end à Sochaux.
Week-end à Sochaux.
Avec le sang des autres.
Avec le sang des autres.
À bientôt, j'espère.
À bientôt, j'espère.
La charnière.
La charnière. Classe de lutte.
Classe de lutte.
Rodia 48.
Rodia 48.
Nouvelle société Kelton.
Nouvelle société Kelton.
Nouvelle société biscuiterie Buller.
Nouvelle société
Nouvelle
biscuiterie
société
Buller.
Nouvelle
société
OG
découpage.
Les trois quarts de la vie.
Lettre à mon ami Paul Seb. Les trois quarts de la vie. Week-end à Sochaux avec le sang des autres.
C'est qu'en effet, nous n'aurions jamais dû nous rencontrer, encore moins travailler ensemble. Ça ne se faisait pas, ça ne se fait toujours pas, ou si rarement. De quoi je vous parle ? D'une utopie. De quelques dizaines d'ouvriers des usines Radio-Céta de Besançon et Peugeot de Sochaux, d'un côté, d'une poignée de cinéastes, réalisateurs et techniciens de l'autre, qui ont décidé, à cette époque-là qui n'est justement pas n'importe laquelle, de consacrer du temps, de la réflexion et du travail à faire des films ensemble.
Monsieur, vos tests sont concluants. Vous serez affecté en peinture.
Mais monsieur, j'ai un CAP de mécanicien.
Je suis désolé. Merci.
Bon, au revoir, monsieur.
Monsieur Dubois, Jacques. Bonjour, monsieur. Monsieur, vos tests sont concluants. Je vois que vous avez un CAP de peintre.
Oui, monsieur.
Vous serez affecté en fonderie.
Hein ?
Merci.
Et voilà, j'ai un CAP d'électricien mécanicien et il m'a semblé tout à fait normal de demander ma mutation pour le service d'électricité générale.
Ça sera fait rapidement, vous le mettez là-dedans. Voici le règlement intérieur des hôtels. Signez-la.
Tout ce qui est dur, en fin de compte, c'est d'avoir un métier dans les mains. Moi, je vois, je suis ajusteur. Je fais 3 ans d'ajustage. Pendant 3 ans, j'ai été promu à l'école, dans mon CET. Et puis, qu'est-ce que j'en ai fait ? Au bout de 5 ans, je ne peux plus me servir de mes mains. J'ai mal aux mains. J'ai un doigt, le gros. J'ai du mal à le bouger. J'ai du mal à toucher Dominique le soir. Ça me fait mal aux mains. La gamine, quand je la change, je peux pas lui dégrafer ses boutons. Tu sais, t'as envie de pleurer dans ces coups de temps-là. Ils ont bouffé des mains. J'ai envie de faire un tas de choses. Et puis je me vois maintenant avec un marteau, je sais à peine mon cerveau. C'est tout ça, tu comprends. T'as du mal à écrire, j'ai du mal à écrire. J'ai de plus en plus de mal à m'exprimer. Ça aussi, c'est la chaîne pour nous. C'est dur de... Quand t'as pas parlé pendant 9 heures, t'as tellement de choses à dire que t'arrives plus à les dire, que les mots, ils arrivent tous ensemble dans la bouche. Et puis, tu bégayes, tu t'énerves. Tout t'énerve, tout. Et ceux qui t'énervent encore plus, c'est ceux qui parlent de la chaîne. Puis qui ne comprendront jamais que tout ce qu'on peut en dire, que toutes les améliorations qu'on peut lui apporter, c'est une chose, mais que le travail y reste. C'est dur, la chaîne. Moi, maintenant, je ne peux plus y aller, j'ai la trouille d'y aller. C'est pas le manque de volonté, c'est la peur d'y aller. La peur qui mutile encore davantage. La peur que je puisse plus parler un jour, que je devienne muet. Et puis quel débouché qu'on a. Je suis rentré à 18 ans, je sais plus, en sortant de l'école. Je te dis, j'ai tellement mal aux mains, j'ai tellement des grosses mains, mes mains me dégoûtent tellement. Et pourtant, je les aime tellement, mes mains. Je sens que je pourrais faire des trucs avec. Mais j'ai du mal à appliquer les doigts. Ma peau est sans vat, je vais pas me l'arracher. C'est Peugeot qui me l'arrachera. Je lutterai pour éviter que Peugeot me l'arrache. C'est pour ça que je ne vais pas m'arracher ma peau. Je ne veux pas qu'on les touche mes mains. C'est tout ce qu'on a. Peugeot essaye de nous les bouffer, de nous les user. Et là, on lutte pour les avoir. C'est de la survie qu'on fait.
Voilà qu'un temps, on se prend à espérer que les mains ne soient plus jamais fragiles ou coupées, mais puissantes et justes. Ce n'est pas un hasard si dans le mot « humain », il y a le mot « main », glisse la voix off embarquée dans la ciné-voiture de l'être à mon ami Paul Seb. Et, presque 30 ans après, comme l'écho, la voix de Godard répond « Les uns pensent, dit-on, les autres agissent. Mais la vraie condition de l'homme, c'est de penser avec ses mains. »
Qui est la vérité à hauteur d'homme. Et j'ajouterai « à portée de main ». Il est grand temps que la pensée redevienne ce qu'elle est en réalité, dangereuse pour le penseur et transformatrice du réel. Les uns pensent, dit-on, les autres agissent. Mais la vraie condition de l'homme, c'est de penser avec ses mains.
Il y a les cinq doigts, les cinq sens, les cinq parties du monde. Oui, les cinq doigts de la fée. Mais tous ensemble, ils composent la main. Et la vraie condition de l'homme, c'est de penser avec ses mains.
Et dans ce voyage, mon frère, ami PC, je voulais te parler de l'orthodoxie, des écrivains. Et je m'embrouille dans mes rêves et dans le noir. Oui, les écrivains qui se servent de leurs mains, qui arrivent à faire pousser même des orangers dans la neige. Oui, oui. Puis il y a aussi les mains d'Harald, et les mains de René, et les mains d'Antoine, reliées au monde par leur potentiomètre. C'est ça la culture. Et pas seulement les films de Saint-Luc le Vietnamien dans son bunker, ou des dames Augustine à Neuilly, ou d'Alain l'Emmitouflé des plages du Nord. L'homme gratte le monde avec ses mains. On dit qu'il se cultive. Mais ses mains sont achetées à bas prix, utilisées pour les plus petits salaires. Et l'homme pour lui-même ne plus s'en servir. Et puis c'est pas un hasard si dans le mot humain il y a le mot main. Puis il y a les mains nues aussi. Puis les mains du Vietnam. À quatre mains à deux mains, à quatre pattes, mains à la patte, sur le cœur, les mains sur le ventre. Et on arrive à la main armée, les mains en l'air, avant la main courante, les mains en l'air, la main chaude, les mains des mains de foi, les mains en l'air, mais des mains, il y en a d'autres. Des mains de haut et des mains de Seb, les mains sur le ventre, des mains sur le cœur. Et l'humiliation la plus grande, la plus terrible, la plus misérable. On te lève les mains, et tu n'es plus un homme, et tu as les mains levées. Et après, tu as les mains lasses, et les mains coupées, et les mains déchirées. C'est pour ça que je n'aime pas la prière. La prière, on joint les mains. Et quand on joint les mains, ça veut dire qu'on ferme sa gueule, qu'on s'écrase, qu'on attend. Quand on joint les mains, on est foutu.
10 000 travailleurs, on peut estimer à 10 000 travailleurs, ont perdu une journée sans... Comme ça, là, c'est pas un exploit, ça, non, c'est ça la solidarité, c'est quelque chose de formidable. Je sais pas, moi, comparé à ce que nous dit Guy Lux ou à ce que nous dit France Dimanche, c'est quand même formidable, c'est une autre gueule, non?
Oui, c'est sensationnel, mais il y en a qui n'en sont pas conscients. Quoi.
C'est pas sensationnel, c'est normal, c'est la classe ouvrière. Et,
oui, oui.
Et c'est ça qu'il faut avoir conscience, quoi, que les gens, que c'est pas les conneries qu'on nous raconte qui sont belles, c'est parce qu'il n'y a pas dans France Dimanche ou dans Ici Paris, mais c'est dans ce que fait la classe ouvrière. Enfin, perdre 5 000 francs parce que des copains ont été licenciés et encore aujourd'hui verser des sommes de salaire pour que ces gars-là aient leur salaire d'assuré. Si ça se savait, ça, un peu, si on pouvait le développer. C'est pas de la culture, ça?
Si, même beaucoup.
Mais je veux dire aussi aux patrons qu'on les aura, c'est sûr, parce qu'il y a cette solidarité et qu'eux ne savent pas ce que c'est. On vous aura, on vous en veut pas encore terriblement à ceux qui se prennent un peu pour des patrons et qui ne le sont pas, mais ceux qui détiennent les capitales, le capital, on vous aura. C'est la force des choses, c'est la nature, et à bientôt, j'espère.
De Yael Mandelbaum, Gaël Gillon, Clara Alloin, Julien Maran, Samy Elahage, Christophe Simonetti, Sandra Alvarez de Toledo, Marine Chevrier et Elsa Pondruel Simonetti. Les voix radiophoniques de Pier Paolo Pasolini, Robert Linhart et André Dagné. Les textes lus dans l'émission sont extraits de Rush de Bruno Muel, Thèse sur Feuerbach de Karl Marx, Les chiens de garde de Paul Nizan, L'établi de Robert Linhart, L'image-temps de Gilles Deleuze, Document dirigé par Nicole Brenez et la revue L'image le monde. Les extraits de films sont tirés d'œuvres de Chris Marker, de Jean-Luc Godard, des groupes Dzigavertov et des groupes Medvedkin. Lettre à Paul Seb, Le joli mai, Les mots ont un sens, Le vent d'Est, Le fond de l'air est rouge, Le tombeau d'Alexandre, À bientôt j'espère, La charnière, Week-end à Sochaux, avec Le sang des autres, Histoire du cinéma, Le livre d'images. Les sons sont ceux d'un ancien radiateur industriel, d'un métier à tisser traditionnel, de rouleaux de chantier, des bruits de course, de balais, d'échafaudages et de chaises dans un théâtre et un ancien moulinage, des livres dans une bibliothèque, des trains qui arrivent en gare, des voiles qui claquent au vent dans la baie de Brest, des enfants qui jouent dans un parc à Bagnolet et un parquet qui grince. Musique. Raphaël Feigenbaum, Emmanuel Chevrier. Merci enfin à Raphaël de Seillac, Maxime Boitieu et Manette Essandier. Adrien Chevrier pour l'association Peuple et Culture.